Tout a l'air normal, je sais pas. Après, meilleur, je vois pas. Ah, voilà. Très bien. Alors, je vous disais qu'en fait, le Nesiv dit, d'après le Pshat, pour avoir Ruach HaKodesh, il faut se mettre en situation. Il faut faire, comme c'est un rapport qui se situe dans l'amour d'Hachem, il faut faire des actions qui ont à voir avec l'amour pour la personne à laquelle on veut donner de la bracha. Et ce qui marche un peu, c'est de mentionner son nom, c'est de le regarder au fond des yeux, en fait. Et donc, en fait, ce que Yaakov voulait, c'est que Yosef mentionne leur nom, qu'il les nomme, pas simplement en disant c'est mes enfants, mais il voulait que Yosef les nomme. Faut mentionner les noms des gens explicitement. Alors il lui a dit, c'est mes enfants que Elohim m'a donné. Yosef, lui, voulait pas les mentionner, pas mentionner leur nom. Pourquoi? Parce qu'il était très ennuyé. Parce que si vous voulez bien revenir un passage plus haut, un tout petit peu plus haut, Yaakov dit, quand il lui dit, tes enfants maintenant, qui sont nés qui sont nés en Égypte avant que je ne vienne. Lihem, ils sont à moi. Qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Il dit, vous avez le verset, c'est le verset Chet, non, Hé, pardon, le verset Hé du chapitre 48, 48-5. Il lui dit, Lihem, Ephraim ou Menaché, qui Reuven ve Shimon Iuli. Qu'est-ce que Jacob vient de faire? Il vient de mentionner le plus jeune avant l'aîné. L'aîné, c'est Ménaché. Et lui, il dit Ephraim ou Ménaché. Et Yosef, il sait très bien que Yaakov ne fait pas les choses au hasard. Donc, il est très embêté, dit le Netziv. Il veut pas les mentionner leur nom. Il veut pas contredire son père. Mais il ne veut pas non plus entériner ce que fait son père de placer Ephraim avant Ménaché. Donc il veut dire Elohim Natan Libazé, ça veut dire ils sont bénis d'Hachem. Donc ce n'est pas simplement des enfants, c'est des enfants bénis par Hachem. Elohim. Alors ensuite, on nous dit, mais les yeux de Ene Israël, Kavdou Mizoken, il voit plus très bien parce qu'il est par vieillesse. Lo yuchal lirot, il peut pas voir. Alors, Vayagash, pardon, Otam Elav. Donc, on les lui a approchés, il les a embrassés et il leur a donné baiser et il les a pris dans les bras. Les boucs. Et notre Sif dit pourquoi il a fait ça. Parce qu'on a vu plus haut, il disait que pour se préparer à Ruach HaKodesh, pour donner une bracha, il fallait voir, regarder les personnes au fond des yeux. Comme lui, il voit plus assez bien, alors il a pris un autre moyen pour augmenter la hava, l'amour. Il a fait des peulot acherot, il a fait d'autres gestes en les touchant avec ses mains. Et donc là, il a fait monter l'amour pour ses enfants. Le Nassif, il dit que Nishuk ve Chibuk, c'est-à-dire d'abord Nishuk, des baisers avant d'embrasser, de prendre dans les bras. Normalement, on aurait dû dire dans l'autre sens. D'abord, on prend dans les bras, puis ensuite, on embrasse. Et comme il était déjà tout près de lui, alors tout de suite il les a embrassés, et après il les a encore serrés contre lui. Et il dit à Yosef, il lui dit, Rofanecha lo filalti. J'espérais pas du tout. J'ai même pas prié. J'ai pas pensé du tout te revoir. Revoir ton visage. Et maintenant, je vois tes petits-enfants, tes enfants, pardon, même ta descendance. Alors, Yosef les a sortis les a rapprochés. Et ils sont reculés et ils se sont prosternés devant Yaakov. Alors, Yosef, maintenant, il amène ses deux fils à la bracha chez son père. Alors, Yosef, il veut que Yaakov donne la bracha il pose sa main droite sur la tête de l'aîné, Menaché, et la main gauche sur la tête d'Ephraïm. Donc il met, puisqu'il arrive en face, il met donc Menaché à sa gauche, qui est la droite de Yaakov, et Ephraïm à la gauche de Yaakov. Comme ça, naturellement, s'il pose ses mains, Yaakov va poser sa droite sur Menaché, la gauche sur Ephraïm. Et voilà le pasuk dit, Vaishlach Israël et Yemino, Vaishet et Al-Rosh Ephraïm. Et voilà que Yaakov, il tend sa main et il croise les bras. Il met sa droite du côté gauche sur la tête d'Ephraïm, qui est pourtant le plus jeune. Et il les bénit comme ça, mais... Alors la bracha qu'il leur donne, Elohim asher italchu avotai lefanav, Elohim devant lequel mes ancêtres ont marché, Avram v'Yitzhak, a Elohim aroe oti meodi adayom haze, Elohim qui m'a guidé depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Alors Amalach agoel oti mikol ra, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, ויגעו לרוב בקרב הארץ. עשה לה ברכה. Alors, Yosef, il voit que son père a croisé les bras, alors il n'était pas content du tout. Alors, il a pris la main de son père pour l'enlever de la tête d'Ephraïm pour la poser sur celle de Menaché. Et il a dit à son père, « Loké, Navi. » Pas comme ça, mon père. Menaché, c'est le pro. Pose ta main droite sur la tête du Bechor. Vaimaen. Et Yaakov a refusé. Et il a dit, Yadati Beni, Yadati. Je sais, mon fils, je sais bien ce que je fais. Je sais qu'il est le Bechor, que Menaché est le Bechor. Gamou y est le Ham, lui aussi Israël, va devenir un peuple. Gamou Yigdal, lui aussi va grandir. Voulam Achiva Katon, toutefois, son petit frère, Yigdal Mimeno, il sera plus grand que lui. Zaro y est Mlo Agoim. Et sa descendance, Kola Olam, Itmale, Betzel Shamo, Ushmo, que chez Yahamid, Chama, Begivon, Viareach, Vemeka Yalon. Le descendant d'Ephraïm, c'est Yoshua. Et vous savez que Yoshua, il a arrêté le soleil et la lune dans les guerres. Donc, c'est Ephraïm. Alors, quand le roi HaKodesh avait quitté Yaakov et qu'il a dit « Mais qui sont-ils ?» Parce qu'il a vu dans la descendance de chacun qu'il y avait des rois idolâtres. Et si tu bénis quelqu'un, tu bénis toute la suite. Donc, c'est comme s'il était en train de bénir l'idolâtrie. Il ne veut pas le faire. Le roi HaKodesh s'en va. Alors, ensuite, quand Yosef lui explique que c'est un cadeau d'Elohim, ça veut dire que y a, l'idée, c'est qu'on a toujours ce problème. Est-ce que le ver était déjà dans le fruit? Ça veut dire, quand quelqu'un tourne mal, est-ce que c'est la faute de ses ancêtres? Ce problème-là, il est traité par Tosfot dans Chagiga au sujet d'Acher. Quand une chamelle a mal tourné, Tosfot et d'autres, pas la Gemara directement, mais Farshim, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils veulent une cause. Ils vont trouver deux causes, une cause chez le père, une cause chez la mère. Mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire, eux, ils veulent trouver absolument une cause. Une cause chez les ancêtres. Il y avait quelque chose qui n'était pas bon chez les ancêtres. Donc, chez le père et la mère, il y avait deux choses. Chez le père et la mère d'Acher. Et c'est à cause de ça qu'il a mal tourné. Parce que l'épreuve sur laquelle Acher s'est cassé la figure, l'histoire de Métatron, normalement, il avait de quoi faire face. Ouais, c'est pas tellement évident. Tu vois bien que dans les quatre qui sont entrés, il y en a un qui est mort et l'autre qui est devenu fou. Et Acher, qui a coupé les plantes, comme on dit, le seul qui est sorti indemne, c'est Rabbi Akiva. Alors, c'est plus facile de dire qu'effectivement, enfin, c'est tentant, en quelque sorte, de dire qu'il y avait un problème au niveau des parents. Et tout soit, on peut faire maintenant la Gemara dans Chagiga, mais le Tosfot et l'Hirushalmi trouvent des solutions, ils trouvent des raisons qui nous paraissent pas vraiment des raisons qui en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est pas suffisant, mais c'est Tosfot qui dit comme ça. Mais bon, ça c'est un problème général. Yaakov Avinu, quand on parle de Korach. Il veut pas. C'est marqué Korach ben Issachar ben Lévi. Et on aurait pu continuer, ben Yaakov. Et Yaakov a prié pour que on ne mentionne pas son nom dans l'arbre généalogique de Korach. Il dirait que ça change quoi? C'est sûr que c'est son père, son ancêtre. Il ne veut pas montrer. Si c'est mentionné dans la Torah, alors la Torah, elle dit voilà, qu'il y a quelque chose qui peut venir de lui, mais il pense qu'il n'y a rien de moi. Et donc, on peut donc envisager, mais c'est pas le cas le plus fréquent, qu'effectivement, ce soit pas dû aux parents. D'autres causes, ça fonctionne différemment. Tout n'est pas objet d'hérédité. Pendant longtemps, on s'est interdit de penser que les caractères acquis puissent devenir héréditaires. Nous, dans la Torah, on a toujours dit que oui. On dit que les qualités des Bnei Israël, elles viennent des Avot. Ça veut dire que c'est pas des qualités propres. Il y a un travail qui a été fait, des acquis, que les choses, les midot sur lesquelles les Avot ont travaillé, qu'ils ont amélioré, ils nous les ont transmises. Alors aujourd'hui, on est revenu en arrière sur cette certitude qu'on avait comme que c'était impossible. Aujourd'hui, on a montré. Je ne crois pas qu'on l'ait montré sur les souris. Enfin, on a montré qu'effectivement, des caractères acquis étaient transmissibles et hérédités. Bon, donc ça remet en question l'idée. Mais là, nous, notre problème, c'est, voilà. D'un côté, il voulait pas donner, mais ensuite, quand finalement, Yosef a donné une réponse. C'est pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, il a donné une réponse qui a permis que le roi Hakodesh revienne. Ça veut dire que on a décidé que le mal représente les rois idolâtres quelques siècles plus tard. Ne vient pas d'Ephraïm et de Menaché. Par contre, on va considérer que ce que Yoshua est capable de faire, ça justifie en quelque sorte les brachot donnés à Ephraïm. Ça justifie que Ephraïm soit placé avant Menaché. Parce que son descendant, c'est Yoshua. Et donc, c'est comme ça qu'il a béni, et c'est comme ça que nous, on bénit aussi nos enfants depuis toujours. C'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on dit dans la bracha Yisimcha Elokim que Ephraim v'Ephraim Menaché? Pourquoi on ne dit pas Yisimcha Elokim que Issachar et Zvulun? Pourquoi? Justement, les deux qu'on a ajoutés. Justement, ces deux-là. D'ailleurs, ici, on voit bien qu'ils reçoivent une bracha avant les autres. La bracha des autres, elle vient tout de suite, là, maintenant. Et d'abord, on règle le problème Yosef et sa descendance. Et après seulement, Yaakov va s'occuper de donner des brachot à ses propres enfants, après en avoir donné à Yosef, mais aussi à ses petits-enfants. Et il dit à Yosef, voilà, je vais mourir, Elohim sera avec vous. Il vous ramènera en Eretz Israël, le pays de vos ancêtres. Moi, je t'ai laissé Shrem Echad Alachecha. Je t'ai donné un an plus, que, c'est-à-dire du territoire que j'avais conquis sur Mina Emori, Bekharbi ou Bekashti, un territoire conquis sur l'Amoréen. L'Amoréen, ici, on dit c'est Esav, que j'ai pris Bekharbi ou Bekashti. Littéralement, ça veut dire avec mon épée et avec mon arc. Ça veut dire avec mon étude et mes mitzvot, en fait. Voilà, donc il, de nouveau, il dit à Yosef, tu en auras un peu plus. Et là, on voit, donc il a deux tribus au lieu d'une, et puis aussi un territoire qu'il lui donne directement. Et ce territoire-là que j'ai conquis, que j'ai pris à Esav, je te le donne à toi. Donc il ne sera pas pris dans l'assiette qu'on va partager entre... Donc tout le territoire qu'on va partager entre les 12 tribus. Vous voyez, Rachid dit, c'est vrai que Menaché, c'est le fils aîné. Mais Achiv HaKatan, Igdal Memenu. Mais son petit frère, il deviendra plus grand que lui. Et c'est ce que Yoshua va faire. Il va arrêter le soleil et la lune. Donc on voit que Yaakov Avinu a vu ce qui allait sortir d'Ephraïm et de Menaché. Jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que il a croisé les mains. Et certains veulent demander, bon, pourquoi est-ce que Yaakov a croisé les mains? Peut-être qu'il avait qu'à faire en sorte que Yoshua ne soit pas un descendant d'Ephraïm, un descendant de Menaché. Hachem peut tout faire. Certains disent que c'est ce que Yosef a demandé à son père. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Pose ta main et tu donnes la bracha à Menaché pour que Yoshua soit un descendant de Menaché, pas d'Ephraïm. Alors la réponse, c'est que c'est pas possible. Et ça, ici, c'est une chose très importante. Dans toutes les brachot, aujourd'hui, les gens viennent demander à n'importe qui des brachot sur n'importe quoi. Mais ici, on voit bien que pour que les brachot fonctionnent, il faut connaître la personne à laquelle on donne la bracha. C'est fondamental. C'est-à-dire, il faut savoir si cette personne, elle peut recevoir cette bracha. Je vous ai déjà dit quelquefois que la bracha, c'est une multiplication. Donc, on ne peut pas donner à quelqu'un comme bracha de devenir quelque chose dont il a rien du tout en lui. S'il a les choses en lui, mais à très petite échelle, la bracha, elle peut multiplier, c'est possible. Mais, vraisemblablement, Menaché n'avait rien en lui qui permette à Yoshua de devenir son descendant. On change pas l'ordre du monde avec les brachot. On amplifie les choses, mais on va pas changer complètement les choses. Faire en sorte que quelque chose qui empêchait quelqu'un de s'épanouir, que cette chose-là cesse de l'en empêcher. Mais pas lui donner quelque chose dont il est totalement privé. S'il y a zéro à la multiplication par ce que vous voulez, on aura toujours zéro. Alors, il donne des brachot maintenant à ses fils. On appelle ça des brachot. Et on a déjà vu que le terme brachot, à cet endroit-là, il nous choque un petit peu. Par exemple, il commence par Reuven. Il lui dit, Reuven, b'chori ata, tu es mon premier-né. Kochi vereshitoni, tu es ma force, tu es la première goutte de semence que j'ai émise, yeter se'et ve yeter az. Tu aurais dû être au-dessus des autres, avoir plus de force. En d'autres termes, tu aurais dû être à la fois roi et à la fois Kohen Gadol, et tu aurais dû avoir la double part puisque tu es le premier-né. Mais, Pachas kamaim al totar. Kialita, ishkeve avicha, az chilalta yitzuer ale. Rashi dit, Pachas kamaim, c'est-à-dire le jaillissement, le désordre en fait. Que tu as manifesté dans ta colère. C'est comme de l'eau qui dévale à un torrent qui dévale à toute vitesse. Al totar. Al tarbe litol et ayeterot alalu shayuvim lecha. Tu peux pas les prendre. Ces en plus que tu aurais par rapport à tes frères, tu ne peux pas les prendre. Tu es trop dangereux, en fait. Tu es impulsif, par ses émotions, etc. Donc, il lui a tout enlevé. Et du coup, on peut se demander pourquoi ça s'appelle les brachot. Marqué plus bas, Ish, Asher Kevirkato, Berachotam. Il a donné à chacun la bracha qui lui correspondait. Quelle bracha il a donné à Reuven? Mais quand son père a dévoilé à Reuven quelle était sa mauvaise mida, cette espèce d'impulsivité, de manque de maîtrise, il lui a donc dit, c'est là-dessus que tu dois travailler. C'est ça la bracha. Si on dévoile à quelqu'un de quelle mauvaise mida il doit se méfier chez soi, c'est en fait une volonté de lui permettre de trouver sa place, de réussir sa vie. C'est ça la bracha. Juste pour terminer, faire une remarque que j'ai peut-être déjà faite, mais Je sais toujours pas exactement comment ça se prend là. Rouven, il aurait dû être roi et Kohen Gadol, ils sont de côté la double part. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire que si les choses s'étaient déroulées normalement, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. La Kehuna et la Malchut seraient dans les mêmes mains. Ça l'est pas, parce que quand Reuven s'est avéré ne pas pouvoir devenir ça, alors on regarde qu'est-ce qui vient après. Après, il vient Shimon et Lévi. Ça, Yaakov dit non, ça, c'est exclu. C'est des assassins, ils ont massacré les gens de Shrem, etc. Non, exclu. Le quatrième, c'est Yehuda. Mais on ne donne pas à Yehuda tout ce qu'avait Reuven. Yehuda, il a la Malchut, mais il n'a pas la Kehuna. Et c'est donc, en quelque sorte, même la Malchut, il l'a d'une certaine manière par défaut. Parce que les autres se sont disqualifiés. Mais en tout cas, cette fois-ci, maintenant, il y a séparation des pouvoirs. La royauté, elle est chez Yehuda, et la Kehuna chez Lévi. Donc, on a l'impression, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas séparation des pouvoirs. Et concrètement, les hommes se débrouillent pour se conduire de telle sorte qu'on soit obligé de séparer les pouvoirs. Et ça recommence. Moshe Rabbeinu, il devait être Melech et Kohen Gadol aussi. C'est parce qu'il n'a pas répondu tout de suite à Hachem qu'il lui avait ordonné d'aller libérer les Bnei Israël d'Égypte, que Hachem a dit « Ok, c'est pas toi, alors la Kehuna, je la donnerai à ton frère Aaron. » Donc, de nouveau, la même chose. Moshe Rabbeinu aurait dû être les deux choses, Melech et Kohen Gadol, et parce qu'il a été, il s'est d'une certaine façon disqualifié, il n'est que Melech et pas Kohen Gadol. Donc, on a la séparation des pouvoirs dans la version après la sortie d'Égypte, donc, le clan d'Israël. Et donc, c'est étonnant que... Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est bien ou c'est pas bien? On a l'impression que, de façon idéale, il devrait y avoir... Le pouvoir devrait être totalement entre les mains d'une seule personne. Pas de séparation des pouvoirs. Mais ensuite, les hommes se débrouillent. Mais en fait, chez Moshe Rabbeinu, on lui a pas tout enlevé. On lui a laissé la royauté, on lui a enlevé la Kehuna. Chez Reuven, on lui a enlevé les deux. Mais on a donné à Yehuda que la royauté. La Kehuna, elle a été donnée à Lévi. Parce que Lévi, ils ne peuvent pas avoir se substituer à Reuven qui est défaillant, si on peut parler comme ça. Mais les Lévites ont effectivement participé à ce massacre à Shrem, mais ils se sont rattrapés au moment du veau d'or. Ce que n'a pas fait la tribu de Shimon. La tribu de Shimon, ils ont encore fait pire puisque Zimri, c'est la tribu de Shimon. Et ça va tellement loin que Moshe Rabbeinu, quand il distribue la terre d'Israël aux tribus, il ne donne aucun territoire à Shimon. Si vous voulez, les gens de Shimon, ils n'ont pas de territoire. Sauf qu'ils en ont quand même parce que Yehuda a donné une partie de son territoire à Shimon. Par conséquent, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de cette histoire de la séparation des pouvoirs. En Occident, je ne sais pas, on, Est-ce que on pense que c'est bien la séparation des pouvoirs, mais pourquoi est-ce que initialement ça ne devait pas être séparé? Je ne sais pas si vous pouvez réfléchir.
Les Oppenheim ont
transgressé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus garder les deux pouvoirs. Ils ont transgressé. Et comme je l'ai dit, à ma grande surprise, le Rambam, il voit pas ça comme quelque chose de... Bon, il dit que c'est pas ce qu'il fallait faire, mais il le regarde pas négativement et il tient pas compte du tout de ce que l'histoire a montré, que ça marchait pas. C'est vrai que les Hachmonaïm sont revenus au pouvoir et ils ont amené les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash. Et auparavant, Yanaï, qui est aussi un descendant des Hachmonaïm, il a massacré tous les Chachamim, tous. Shimon Meshetar, il a été sauvé par sa sœur. Il y en a un où il lui a crevé les yeux, c'est tout. Il ne l'a pas tué. Les autres, il les a tués.